Bonjour et bienvenue sur Des Racines et des Herbes, le podcast pour parler plantes. Dans cette série, nous partons à la rencontre d'hommes et de femmes qui ont mis le végétal au cœur de leur existence. Ils sont naturopathes, herboristes, producteurs, cueilleurs, et nous les accueillons à notre table pour qu'ils nous partagent leur quotidien. Au travers de nos discussions, vous découvrirez des métiers méconnus, des savoirs ancestraux, et apprendrez à faire connaissance avec la nature qui vous entoure. Pour ce nouveau numéro, je suis en compagnie de ma comparse naturopathe, Laurine. Est-ce que ça va, Laurine ?
Ça va et toi ?
Ça va, ça va. Est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient éventuellement pas ?
Eh ben oui, je m'appelle Laurine Gauthier, je suis naturopathe, réflexologue et praticienne en massage. Je fais aussi des ateliers, des interventions en entreprise. Je suis basée à Saint-Barthélemy-d'Anjou, à côté d'Angers. Et après, voilà, mes interventions sont un peu partout dans la région et les entreprises, je peux aller un peu plus loin.
Ok.
Voilà. J'ai une spécificité, je sais que je parle la langue des signes, du coup mes clients sourds, ils n'écoutent pas de podcast, mais c'est pas grave.
C'est pas faux.
Voilà, ça fait quelque chose de plus. Et toi, tu fais quoi ?
Eh ben, moi je suis cueilleur, je m'appelle Frédéric, je suis installé sur Beaufort-en-Anjou, pas très loin d'Angers, entre Angers et Saumur, et je fais de la cueillette de plantes sauvages et aussi de la formation aux particuliers et en entreprise pour l'usage des plantes, que ce soit en herboristerie, en cuisine, les usages qu'on peut faire avec les plantes sauvages.
Pour cet nouvel épisode, nous souhaitons vous faire découvrir un métier peu connu, ennoblisseuse de textiles. Isabelle Munoz est la fondatrice de L'Habit en Rose, entreprise de teinture végétale sur tissu. Merci d'être parmi nous Isabelle, on te laisse te présenter.
Merci, bonjour et merci de m'avoir invitée à votre podcast. Donc Isabelle Munoz, L'Habit en Rose, la teinture végétale, c'est mon activité. Donc ce que je pratique, c'est exprimer la couleur des plantes pour la fixer sur le textile. Okay. Donc j'essaye de les faire parler un petit peu sur mes tissus.
Alors l'habit en rose, c'est quoi ? C'est une passion pour Edith Piaf ?
Alors l'habit en rose, oui, c'est un... Le nom est venu suite à un petit brainstorming que j'ai fait avec des amis.
Okay.
J'ai retenu celui-là, il est très parlant pour moi, parce que pour moi c'est un mot, l'habit en rose, c'est quelque chose qui amène sur quelque chose de positif, et ouais. C'était une reconversion, donc c'était l'idée d'aller vers quelque chose de positif. L'autre partie, c'était que l'habit en rose, je savais que le textile allait se transformer en vêtements à un moment, et en même temps les roses, c'est de multiples couleurs, c'est bien l'habit en rose avec un S à rose, puisque les roses sont de multiples couleurs, donc c'était adapté à mon projet.
Okay.
Et un autre petit point qui était intéressant sur l'habit en rose, c'était que je trouvais que c'est connu, cette expression de la vie en rose est connue un peu internationalement, donc bon, c'était un petit clin d'œil à Angers, et puis tous les touristes qu'il peut y avoir au niveau un peu étranger, qui pourraient comprendre cette phrase, en fait,
parce que ça se rapproche en fait, la vie en rose, habit en rose.
Voilà, c'était un petit jeu de mots. Voilà, c'est okay. Exactement.
Okay.
Et puis, l'autre partie encore, c'était pourquoi la rose ? Ben, en fait, la rose, elle contient deux choses intéressantes par rapport à ma vision de la vie. C'était que il y a les couleurs, il y a la douceur et il y a aussi les épines. Donc, tout est là, en fait.
Ouais, du côté se protéger quand même.
Se protéger, mais les épines, elles sont... C'est juste que la vie est piquante aussi.
Ouais,
quoi. La vie est piquante, elle est douce et piquante. Les deux, tout est bien, en fait.
Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire.
Et tout ça est dans la rose.
Oui.
Ouais. Et du coup, c'est quoi ton parcours, pourquoi et comment t'es venue à faire de la teinture végétale ?
Alors, c'est un parcours très peu direct.
On a tous fait des bifurcations.
Ma vie professionnelle, elle commence dans le secteur de l'aérien.
D'accord.
Et donc, j'ai voulu dans un milieu qui est plutôt aérien et qui évolue dans la vitesse, en fait. Donc, quelques années en compagnie aérienne et puis quelques années à affréter des avions.
Ok.
À la demande, donc mettre en place des vols ponctuels.
D'accord.
Pour transporter des personnes... qui n'arrivent pas à trouver de solution sur des vols réguliers parce que c'est des groupes trop grands ou parce que ce sont des lignes qui n'existent pas, voilà. Donc, première vie professionnelle, ouais, la vitesse, des interlocuteurs plutôt un peu speed, un peu... Ouais. Un peu exigeant, etc. Mmh. Et à la fois, c'est un métier qui m'a... Enfin, les deux métiers en compagnie aérienne et en affrètement aérien m'ont beaucoup plu. Ils m'ont amené sur de l'échange culturel, international. Mmh. Et puis, au bout de 20 ans, dans ce milieu-là, les choses ont évolué. Moi, je travaillais pour l'affrètement aérien, je travaillais à Angers. Et l'entreprise a décidé de fermer les bureaux à Angers et de tout rapatrier à Paris. Or, j'avais quitté Paris pour travailler dans cette nouvelle entreprise à Angers. Je ne voulais pas repartir à Paris. Donc, ouais. Voilà. Donc c'est là qu'est arrivé le projet de reconversion.
Okay.
Ouais. Donc, passer tout d'un coup de l'air à la vitesse, à quelque chose de beaucoup plus doux sur la terre et au rythme du temps des saisons. Voilà, c'était bien.
C'est de la nature. Et du coup, pourquoi la teinture végétale?
Alors, la teinture végétale, c'était plutôt un cheminement personnel qui avait commencé depuis que j'habitais Angers. Donc, puisque j'ai travaillé 12 ans à Angers avant d'être artisan, de devenir artisan et de travailler sur ce sujet. Et en fait, on avait pas mal évolué, Pascal et moi, mon mari. On avait commencé à être dans une AMAP, on avait commencé à réfléchir sur notre alimentation. D'où venaient les choses, comment les produire, d'où on aimait bien les récolter à la map, etc. Et tout ça nous avait fait évoluer sur l'alimentation. Et puis les réflexions sont venues sur la cosmétique et sur le textile.
Ouais.
Et à l'époque, le textile, il y avait bien des textiles estampillés bio. Et tout, c'était... si je me souviens bien, à l'époque... Bon, les fibres naturelles, ça, j'ai toujours porté des fibres naturelles. J'ai beaucoup pratiqué la teinture d'abord synthétique, ça, j'avais pratiqué déjà avec ma machine à laver.
Ouais.
Mais surtout, j'avais la chose que je pratique depuis très longtemps pour faire durer les textiles, c'est quand même d'acheter en seconde main, en fait, tout simplement des textiles de qualité. Et j'ai toujours orienté sur des choses naturelles. Et j'avais un questionnement sur les choix des couleurs dans les magasins où je pouvais acheter des tissus estampillés bio. Ouais. C'était des coloris extrêmement forts, un peu criards.
Okay.
Et en fait, pas du tout naturel.
Pas du tout naturel.
Ça ne plaisait pas du tout.
Enfin, ça ne me plaisait pas en termes de couleurs. Et à la fois, je trouvais ça pas cohérent, en fait, d'être en bio et en synthétique, quand même.
Mais je vois.
Ouais, d'avoir une teinture chimique, je sais pas si on dit,
c'est le terme. Plutôt synthétique, on va dire, c'est un colorant de synthèse.
Voilà. Ouais.
C'est un colorant de synthèse.
Un coton Ecotex ou je sais pas quoi.
Coton Ecotex, il y a donc des teintures synthétiques, donc de colorants de synthèse, qui sont estampillées, labellisées Ecotex. La seule chose qu'on sait quand c'est labellisé Ecotex, c'est que il n'y a pas de métaux lourds, de choses néfastes pour notre peau, notre corps.
Ouais.
Mais ça ne dit rien de la manière dont on a procédé, ça ne dit rien de la manière dont les gens ont été traités pour faire ce travail, ça ne dit rien de l'endroit où ça a été fait. Ça ne dit rien de la dépollution des eaux, de ces endroits, etc. Donc voilà, c'est à minima. Ecotex, c'est bien.
Ouais, mais justement, tu vois, moi, c'est un question que j'ai souvent dans mon métier. Est-ce que tu as remarqué, toi, qu'il y a des labels qui sont développés au fur et à mesure du temps, qui sont un peu mieux, quand même, par rapport à ça?
Alors, le label le plus évolué en termes de textile, c'est le label GOTS.
GOTS, ouais. Ouais.
Global Organic Textile Standard.
Okay.
C'est le plus évolué à tout point de vue, c'est-à-dire la manière dont on procède, l'usage de l'eau, le traitement de l'eau, et puis les colorants de synthèse eux-mêmes qui ont été sélectionnés pour être vraiment à impact écologique le plus négatif et le plus positif possible.
Ouais.
Mais ça reste des colorants de synthèse.
Et il y a les conditions de travail aussi des gens dans ce label-là?
Oui, dans le label GOTS, oui.
Okay.
C'est pour ça que c'est vraiment... Enfin, si on doit faire un choix, autant s'orienter dans le textile sur ce label-là.
Okay.
Et donc, du coup, tu étais déjà attirée par ça. Et après, tu as fait quoi? Un bilan de compétences? Comment ça s'est passé?
Alors, quand j'ai commencé à chercher à me reconvertir, mon souhait, c'était... La seule chose que je savais, c'est que je ne voulais plus être salariée.
D'accord.
Donc, je voulais créer une entreprise. Le textile, ça me plaisait, mais j'avais pas de compétences spécifiques là-dessus. J'ai commencé à regarder tout simplement les... Comme je cherchais une idée d'entreprise, j'ai commencé à regarder les sites de financement participatif.
D'accord. Ah,
okay. Pour trouver des idées. Enfin, okay. Pas trouver des idées, mais juste voir ce que faisaient les autres, en fait, comme nouvelles entreprises. Et je suis tombée sur une personne qui faisait un financement participatif sur... elle avait appelé ça le récupère couleur. Okay. Et c'était une jeune femme qui s'appelle Aurélia Wolf qui poursuit encore et qui est toujours active dans la teinture. Elle est teinturière. Elle a même développé sa structure. Ça s'appelle désormais la société WHOLE, comme ouais. Global. Ouais. Okay. W-H-O-L-E. Et elle cherchait donc un financement pour créer une machine à teindre, en fait. À teindre à partir des plantes. Et en fait, même, elle avait appelé ça le récupère couleur parce que c'était récupérer des peaux d'avocat, récupérer des fans de carottes au marché, etc. Tout autour de la récupération de végétaux, mais auprès d'un maraîcher ou des choses comme ça. Et donc, j'avais trouvé l'idée très agréable, enfin attirante. J'ai décidé de l'appeler. Cet échange a été un peu vraiment marquant parce que elle a été d'une très grande gentillesse en même temps que très inclusive. Inclusive dans le sens, moi je posais des questions pour savoir quel était ce métier, parce que je connaissais pas du tout ce métier. Et elle a été très engageante en fait, pour donner envie. Oui, c'est pas un métier facile, mais en même temps qui est plaisant pour plein de raisons. Et ça a été assez déterminant sur ma décision en fait. Et donc en 2013, j'ai commencé à pratiquer. Il n'y avait pas de formation professionnelle à l'époque.
D'accord.
Donc j'ai commencé à aller à la rencontre de gens qui pratiquaient la teinture végétale. Le premier que j'ai vu local, c'était Aymeric Normand. Qui est sur la terre ferme à Beaugé, qui lui, à l'époque, il était paysan teinturier. Donc, okay. il produisait ses plantes et il faisait un peu de formation sur ces sujets-là. Donc, c'était ma première approche avec lui. En octobre de la même année, donc là, on est en 2013, en octobre de la même année, il y avait à Loris, en Provence, Forum international de la teinture végétale, qui avait lieu tous les 2 ans à l'époque, enfin, où il y avait eu peut-être un temps où il n'y avait pas eu lieu. Enfin, en tout cas, c'était 2013, ce forum a lieu. Et je me dis, ben, si le sujet m'intéresse, en allant voir les personnes qui pratiquent à ce niveau-là, si ça m'inspire, je poursuivrai, quoi. Et donc, j'ai pu voir les conférences pour le grand public, ainsi qu'avec des professionnels sur place. Et puis, j'ai pu voir un marché artisanal et artistique. De tout ce que les artistes et artisans qui étaient présents présentaient au niveau mondial en fait. Et c'était j'ai mis le doigt dedans quoi. Okay. À ce moment-là, c'était juste très très inspirant en même temps qu'un milieu attirant, oui voilà, des personnes comment dire très ancrées sur la terre mais aussi les couleurs et des couleurs végétales, c'est un milieu spécifique en fait. C'est un milieu qui vibre. Quand je dis qu'il vibre, il vibre à ses couleurs en fait.
Spécifique ouais. À quoi du coup?
Je pense que si on souhaite faire notre métier en teinture naturelle, c'est que les couleurs que nous procurent les plantes nous parlent.
Ouais.
Mmh. Et ça veut dire qu'on est sensible à ce qu'elles disent. Veut dire qu'on est sensible à ce qu'elles nous amènent. Ça réunit des personnes qui sont toutes sensibles à ce niveau. Et donc, c'est plus facile de se parler après.
Tu pouvais plus peut-être aussi... tu as pu laisser place à ta créativité que tu n'avais pas forcément du coup dans ton métier d'avant.
Oui, dans mon métier d'avant, c'était beaucoup plus... tourné sur l'organisation beaucoup plus et la coordination, on va dire. Moi, je dirais que les plus de mon ancien métier, ça reste la rigueur. Puisque dans la démarche de teinture, il y a quand même... une certaine méthodologie à suivre pour apprendre en fait, pour continuer à apprendre, puisque c'est on fait des expériences, on voit les résultats, on note tout et on avance en fait.
On apprend petit à petit.
Voilà, c'est et je m'aperçois également quand je suis quand je rencontre d'autres teinturiers, on a tous notre approche personnelle assez régulièrement. J'ai le sentiment que c'est un peu, on a tous les mêmes outils On a des plantes, on a de l'eau, on a des bassines, des marmites, etc. Comme un peintre, les peintres, ils ont tous des huiles ou des acryliques, mais leur résultat sera différent. Donc, c'est un peu logique aussi qu'on...
Ça met du artistique, qu'on
arrive sur des résultats... qu'on ait des approches différentes, des méthodologies différentes, et aussi certaines plantes qui vont nous parler plus que d'autres dans la pratique, en fait, aussi.
Et tu as des... Aujourd'hui, parce que tu disais qu'il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de formation à ton époque.
Ouais, oui, alors en 2013, je n'avais pas trouvé de formation. J'avais été voir donc Emeric, il pratiquait dans le coin. Après, j'avais été rencontrer des personnes reconnues localement, en fait, qui pratiquaient régulièrement. Une personne qui travaillait à France Patchwork, dans l'organisation France Patchwork, et elle faisait ses propres teintures. Et elle m'a reçue gentiment à Nantes. Elle m'a parlé de sa pratique. Donc l'idée, c'était d'aller rencontrer des gens. Et à un moment, je suis allée en Ariège rencontrer une tisserande qui s'appelle Pauline Patrix. Son entreprise, c'est Textile Noman. Donc c'est une tisserande qui faisait aussi ses couleurs. Et là, j'ai passé 7 semaines avec elle. Okay. En Ariège. Ouais. Et c'était voir un peu toutes les techniques, faire de la récolte également, de la reconnaissance, enfin, du coup. Travailler aussi la reconnaissance des textiles également, les différents tissages aussi, les armures. Enfin. Et quand je suis revenue de ce stage, ça devait être au printemps 2014. Après, je suis revenue en Anjou et là, j'ai pratiqué avec les ressources locales.
Okay.
Et mon approche, il y a plein d'approches différentes en tant que teinturier, mais mon approche, c'est de travailler vraiment avec la plante. Mm-hmm. Ça n'aurait pas de sens pour moi de ne pas récolter, en fait.
Okay.
D'accord.
Et donc... ni de ne pas semer, de ne pas planter, de ne pas récolter, ça n'aurait pas de sens, en fait.
Donc, ton entreprise, tu l'as créée quand ?
2013, j'ai commencé, voilà. Et en mars 2015, j'ai créé l'entreprise.
Et donc là, tu étais en train de nous dire qu'en fait, tu sèmes ? Tu fais grandir tes plantes, et est-ce que tu peux nous expliquer tout le process du coup
Alors, la partie plante, je suis grandement aidée par mon mari.
D'accord.
Ça se passe à Juigné-sur-Loire, où on a un jardin qui était potager à l'époque. et donc, quand j'ai commencé à travailler ce sujet-là, mon mari me dit « Bon, bah, on va aller regarder un peu qu'est-ce qu'il y a en tinctorial. Ça m'intéresse de regarder ça. » Donc, c'est plutôt lui qui a géré les semis et les plantations. Et maintenant, c'est toujours lui qui fait cette partie-là. Mais en fait, il y a un plan de plantation des envies, c'est moi qui donne les envies, les plantes que je souhaite avoir. Il y a beaucoup de plantes qui sont là aussi juste pour que je les connaisse, j'arrive à savoir quand est-ce qu'elles sont bonnes à récolter en sauvage, en fait.
Okay. Donc,
elles sont dans mon jardin pour que je sache, dans la région, où je peux aller récolter en sauvage.
Tu auras des exemples.
Il y a du millepertuis, il y a la tanaisie.
Ouais.
Les achillées, les carottes sauvages.
Tu pourrais dire un peu les couleurs, parce que tu vois, nous on parle
toutes celles...
un peu, mais...
Ouais, alors, ce que j'ai appris au fur et à mesure de ma pratique, c'est que tout l'art du teinturier, c'est de faire parler la plante.
Ouais.
Mais chaque plante a de multiples couleurs à donner.
Ouais,
en fait.
Ouais.
Donc c'est juste la recette qui va permettre d'exprimer différentes tonalités et différents coloris. Telle plante, si on prend cette partie-là partie, on va pas avoir la même couleur. Donc je prends un exemple du moment, le mimosa.
Ouais.
Si on prend des feuilles de mimosa ou un joli bouquet de mimosa qui s'est fané chez nous, là je peux faire une teinture avec cette partie-là. Feuilles et fleurs, là je vais avoir un beau jaune. De flavonoïdes, a priori,
ouais.
Principalement.
C'est un composant des plantes.
Alors, c'est pas un... c'est les colorants. Il y a des familles de colorants.
Oui,
les familles de colorants qu'on utilise dans les plantes déterminent... Le fait qu'il y ait tel ou tel colorant va déterminer une façon de le travailler, en fait. Donc, les flavonoïdes vont se travailler de telle et telle manière pour exprimer des jaunes purs, etc. Il va y avoir des extractions plus ou moins longues. Si la plante a des tanins, en plus, on va pas vouloir extraire les tanins parce que ça va venir détruire le jaune, par exemple. La formation et aussi l'expérience qui permet d'exprimer des couleurs de plus en plus pures. Par exemple, donc je parlais du mimosa pour les différentes couleurs qu'on peut obtenir avec la même plante, mais en prenant des parties différentes. Donc le bouquet de fleurs qui a séché à la maison, hop, on le prend, on fait une extraction à l'eau par décoction, hein, a priori. Là, le jaune va être extrait, on va filtrer, là, on aura un bain de couleur de plutôt jaune. Si je prends, mettons que le mimosa fait beaucoup de petits rejetons en bas, j'ai pas envie que ça épaississe ce jardin. J'enlève ces rejetons, je me retrouve avec plutôt de l'écorce. Là-dessus, sur l'écorce, il va y avoir des tanins. Et il y aura pratiquement pas de flavonoïdes, puisque les colorants, donc moi je les appelle les colorants parce que c'est ce qui m'intéresse dans la plante, mais ce que la plante va développer en fonction de la partie de la plante qu'on regarde, ça reste l'adaptation de la plante à son milieu. Et sachant cela, on voit bien que si on prend des racines, des écorces, on n'aura pas les mêmes catégorie de colorants, puisque ils sont une réponse à des prédateurs différents,
en fait. Des adaptations de l'environnement.
Donc c'est ça qui peut permettre aussi de s'y repérer quand on est en teinture. Aller chercher des jaunes dans une écorce, ça n'a pas trop de sens, en fait.
Okay. T'auras zéro plante.
J'aurais pas de flavonoïde dans une écorce.
A priori, t'as pas de plante qui ferait de
Et du coup, les flavonoïdes, ça fait des jaunes.
Oui, alors après il y a des grandes, grandes catégories, une grande famille de colorants. Les plus gros, on va dire, ça va être les jaunes dans les flavonoïdes. Tous les tanins qui vont donner des beiges et des beiges colorés, en fait, parce que chaque écorce, par exemple, dans les fruitiers, pratiquement toutes les écorces, les petits rameaux, tout ça, donnent des coloris. Mais ce sont des choses issues des tanins. Et par exemple, moi j'ai la chance d'avoir un verger assez ancien dans mon jardin, et quand on fait les tailles d'hiver, j'ai de quoi travailler pour toute l'année, en fait, à la suite de ça. J'ai un pommier à tel endroit, j'ai un autre pommier à un autre endroit, et il n'a pas la même couleur, en fait. Ils sont uniques, en fait, comme nous. Évidemment, on le sait.
On va avoir des teintes de peau différentes. Voilà. Si on
donc il n'y a aucun arbre qui a la même couleur que l'autre. Quand je prends un cerisier, si c'est un cerisier griotte ou si c'est un cerisier Napoléon, ça n'a pas la même couleur.
Donc, et, c'est la gamme. Qui parle ? Ou est-ce que ça peut être vu quand même
C'est vu de tout le monde. Alors, c'est vu de tout le monde, sauf que c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, l'utilité des nuances, les différences de couleurs, c'est vrai que l'œil s'exerce à ça, puisque c'est ce que je regarde. Bien des gens, quand même, peuvent voir les différences, surtout sur les unes à côté des autres.
Oui, c'est sûr.
Parce que je ne l'ai pas amené là, bien sûr, mais j'ai un petit nuancier autour des écorces, par exemple, de fruitier. Okay. Quand je le sors comme ça, on peut dire aisément c'est du marron. Mais en fait, c'est toute une gamme de beige, et quand je les ouvre et je les mets les uns à côté des autres, il n'y en a pas un seul pareil à l'autre, et certains avec des très petites nuances. Donc c'est là où on voit que on peut faire varier les résultats couleurs en ayant, on va dire, des familles de végétaux similaires qui vont nous donner des nuances spécifiques. Mais après, les autres variables, ça va être la recette associée, à la teinture avec ces plantes-là. Ça va être aussi, quand je dis la recette, ça veut dire le temps de cuisson, la température.
Parce que du coup, tout à l'heure, tu disais on fait une décoction. Est-ce que tu fais toujours une décoction pour extraire une teinture? Ou est-ce qu'il y a d'autres procédés? Qu'est-ce que toi, tu utilises comme...
Alors, on va dire, cette pratique-là que j'ai exprimée avec la décoction, ça va être la grande famille des teintures au bouillon, c'est-à-dire qu'on va monter en température jusqu'au bouillon et extraire la couleur plus ou moins longtemps suivant les végétaux. Je travaille toutes les couleurs sur ce procédé-là d'extraction à l'eau, qu'elles soient à froid, macérées ou à chaud. Mais la seule qui ne se pratique pas de cette manière-là, c'est le bleu. Donc travailler les indigos, donc les plantes à indigos qu'on peut déjà produire en France, il n'y en a que deux. Qui arrivent à maturité en France, c'est le pastel et teinturier, l'Isatis tinctoria. Et puis, il y a la persica indigo, un polygonum qui est beaucoup pratiqué, beaucoup utilisé au Japon. Avec ces deux plantes-là, on peut faire du bleu. Malheureusement, l'indigotine qui est présent dans ces feuilles pour pouvoir faire du bleu avec n'est pas soluble dans l'eau. D'accord. Donc, on est obligé d'utiliser un procédé différent pour pouvoir le mettre sous sa forme soluble avant de pouvoir teindre avec. Donc voilà, c'est la seule... Le bleu, c'est la seule manière.
Et du coup, c'est quoi la technique pour le bleu?
Alors la technique... Je ne vais pas rentrer dans les détails,
mais
l'idée... L'idée, c'est de rendre soluble cette ergotine dans le bain dans lequel on pourra ensuite imprégner les tissus. Il y a deux conditions chimiques obligatoires. Il faut qu'on soit dans un milieu très alcalin, fortement alcalin, donc généralement aux alentours au-dessus de 10, par rapport à l'échelle de 0 à 14, qu'on connaît, cet étant le neutre.
Et on parle du pH.
On parle du pH. Et l'autre notion, c'est qu'il faut qu'on soit dans une cuve dont on va enlever l'oxygène, en milieu réduit. Donc là, on va utiliser un oxydant, si on veut faire une cuve naturelle, d'indigo naturel, on va utiliser un oxydant qui va venir attraper l'oxygène dans l'eau pour réduire cette cuve. Donc c'est ce qu'on appelle, du coup, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, la teinture au bouillon, on va la comparer à une teinture de cuve.
D'accord.
L'indigo.
Deux catégories.
Milieu réduit et alcalin. Et ça, les oxydants sont nombreux. Et dans tous les pays du monde, on utilise des oxydants différents suivant la ressource locale. La plus pratiquée, moi personnellement, celle que je pratique le plus souvent, c'est avec le henné. Le henné va me servir d'oxydant.
L'oxydant, ça veut dire c'est
qui va m'attraper l'oxygène. Attraper l'oxygène, ouais.
Donc là, tu le mets dans ton bain, en fait.
Ouais. Et quand je monte la cuve, je pars d'une extraction, finalement, je pars d'une extraction de henné, en fait, de feuilles de henné, à laquelle j'associe du sirop de date.
Ok. D'accord.
Et c'est ça qui va venir alimenter réduire, aller manger l'oxygène finalement de ma cuve.
Et tu fais ton sirop de date, le henné, tu l'achètes ou tu le fabriques?
Alors le henné, malheureusement, je suis pas dans un pays où je peux vraiment le produire moi-même.
D'accord.
Je l'achète auprès d'un producteur, un revendeur de chemillets.
Ouais.
Il vient du Maghreb, hein, je veux dire. Et le sirop de date, je prends. À l'épicerie exotique, je prends un kilo de pâte de date et je le mets dans l'eau et j'en fais un sirop.
Et donc, du coup, là, quand tu disais principe de cuve, pour être sûr de bien comprendre, c'est-à-dire que c'est comme une grosse casserole, mais qui est fermée.
Là, on est plutôt une grosse poubelle.
On est
sur des cuves assez grandes pour pouvoir...
Et les cuves, elles sont en quoi? Elles sont
En matière plastique.
Ok.
Ouais. Quand je dis la poubelle, ça marche
assez. D'accord. Et donc une cuve où tu vas mettre du coup ton
sirop, vous mettre le henné,
ton sirop de date,
et surtout, donc ce qui va permettre d'être dans le milieu alcalin, il faut que j'ajoute de la chaux. Et ensuite j'ajoute mon extrait d'indigo. Donc l'extrait d'indigo, c'est là pareil, je le fais pas moi-même, j'ai du pastel et j'ai du persicaire dans mon jardin. Pour avoir assez d'extrait d'indigo, il faut, je vous donne le ratio, pour avoir 20 grammes d'extrait d'indigo qui me permet de faire une petite cuve, d'une 40 litres à peu près.
C'est petit,
C'est une petite cuve. Je vais avoir besoin de 10 kilos de feuilles.
Ok.
Donc là, ça devient un vrai métier que de faire de l'extrait d'indigo, sachant que pour récupérer l'extrait d'indigo, on est obligé de récolter les feuilles. On a généralement, si on travaille du pastel par exemple, on a 2 heures pour faire l'extraction.
Il faut
de l'eau, il faut de l'oxygénation, c'est un vrai métier en fait, c'est un métier spécifique.
Et donc du coup là tu as tes deux techniques pour faire ton eau de trempage,
tu peux l'appeler le bain de couleur.
Pour faire le bain de couleur, et après qu'est-ce que tu fais? Donc toi déjà, est-ce que les tissus, où tu les achètes, qu'est-ce que tu fais comme chose?
Alors, quand j'ai commencé ma pratique, je pensais que ça serait très simple de tracer les tissus. C'est très faux. C'est une idée très préconçue et très fausse. Donc en fait, c'est un des enjeux majeurs de mon travail, d'aller sélectionner les matières.
D'accord.
Sélectionner les matières, les tracer. Donc, enfin, pour moi, c'est important de les tracer.
Ouais.
Un autre teinturier pourrait avoir d'autres préoccupations. Moi, personnellement, c'est important pour moi de savoir d'où viennent les matières. J'ai commencé à faire des voyages textiles pour tracer mes matières.
D'accord.
Donc je pensais qu'après l'aérien, je ne voyagerais plus du tout. Et en fait, j'ai voyagé, mais pour d'autres raisons. Et c'était bien aussi.
Et c'était où?
Et en Inde, finalement. Okay. Donc j'ai été tracer la soie et le coton en Inde sur un premier voyage en 2017 au Rajasthan et au centre de l'Inde, où j'ai visité par le biais d'un ami qui travaille dans une association qui s'appelle Ekta Parishad. J'ai pu visiter des lieux d'élevage de soie forestière, donc des vers à soie qui sont élevés en forêt, la filature de ces cocons, y compris de la filature à la main de cocon dont le papillon est déjà sorti, donc okay. qui permet de faire de la soie non violente.
Ouais.
En refilant finalement le fil coupé.
Parce que sinon, en fait,
sinon, on est obligé de tuer l'animal, ça, en fait, ouais. avant sa transformation ouais. en papillon.
Il n'y a plus du tout de soie fait en France. Enfin, j'ai un espèce de flash de quand j'ai. Alors, moi, je viens de Tours à la base.
Oui, bah oui. Très belle, jolie ville autour de la soie.
Je me souviens pas, mais on avait fait une sortie scolaire, on allait voir. Oui.
Les fileurs.
Ouais. Et alors, ouais. tu vois, je vais avoir 40 ans, donc ça devait être il y a 35 ans ou 30 alors, ans. Mais du coup, ça me pose la question, est-ce qu'il y a encore ça un peu dans le coin ou...
Alors, il y a encore...
À l'échelle minime, je pense.
Il y a encore de la production de soie en France, à très petite échelle, souvent à but pédagogique.
Ok. Ouais.
Quelques magnaneries, quelques lieux où on peut voir des
quoi,
vers à soie. Magnanerie, c'est le lieu où on élève les vers à soie.
D'accord.
Où il y a tous les vers qui sont en train de manger des feuilles de mûrier blanc pour faire des beaux cocons tout blancs.
D'accord, ok.
D'ailleurs, évidemment, la couleur des cocons en Inde est très différente puisqu'ils ne mangent pas du mûrier blanc, ils mangent ce qu'il y a dans la forêt.
Dans la forêt, ils mangent,
ouais. Et du coup, on se retrouve avec des fils un peu plus foncés.
Okay.
Parfois avec des nuances différentes entre le début et la fin, qui sont entre les crus, le beige, parfois le beige foncé.
Ça fait l'unique de la pièce à la fin.
Ben, ouais. Moi, personnellement, j'aime bien travailler ces pièces-là parce qu'elles ont déjà plusieurs couleurs en elles, dans le fil.
Mmh. Ouais.
Donc, en un seul bain de couleurs, on valorise... je trouve qu'on met en valeur et la couleur et la matière.
D'accord.
Alors je suis en train d'imaginer ça, mais du coup en forêt ça représente quoi? Ils sont dans les arbres?
Ils sont dans les arbres et c'est mis magnifique. Par les hommes par contre, hein. C'est pas sauvage.
Okay.
C'est, parce qu'on appelle ça souvent la soie sauvage, mais c'est plutôt la soie forestière, c'est juste qu'on l'élève dehors en fait. C'est un peu comme les poulets à l'extérieur.
Oui, oui. Ouais.
C'est le label.
Voilà, au lieu de les
élever en plein air.
Élever en plein air.
Voilà. C'est comment c'est quoi? C'est le zéro pour les œufs, machin.
Ouais, c'est ça. En fait, l'importance d'avoir quelques pièces en soie non violente était importante pour eux parce que c'est une association qui est issue d'un mouvement gandhien. Donc, pour qui la non-violence est très... C'est à la fois important et à la fois quelqu'un qui travaille dans l'industrie de la soie en Inde, il y en a beaucoup, puisqu'ils travaillent beaucoup, beaucoup la soie en Inde, ils sont toujours en train de tuer des animaux, en fait.
Mmh.
Certaines religions là, hindouistes qui sont des catégories un peu spécifiques pour lesquelles il ne faut vraiment pas tuer des animaux.
Oui.
C'est des castes peut-être ou des...
Pardon, ouais,
des
castes, ou c'est alors, ce n'est pas des castes.
C'est une branche
de la religion pour qui vraiment tuer une fourmi, c'est très important d'éviter tout ça si tu veux bien avancer sur ton karma. Bon, le fait qu'ils soient issus de ce mouvement gandhien, la non-violence est en eux, en fait, puisqu'ils ont été éduqués là-dedans. Et ça leur a paru logique d'utiliser des cocons, même si le papillon était sorti et que le fil était coupé.
Ouais.
Parce qu'il y a de la soie, il y en a évidemment, il y a encore de la soie à divider, elle est juste un fil plus court.
Et donc toi là-bas, donc, t'achètes des pièces, t'achètes quoi comme type
alors,
de pièces?
Alors en fait, en Inde, donc, quand j'ai fait ces voyages en Inde en 2017, c'était, comme je l'ai dit, le coton. Et la soie, le coton, c'est un coton, pareil, c'est toujours autour de Gandhi, parce que Gandhi, quand il a repris en main, enfin qu'il a évolué pour la reprise en main et l'indépendance de l'Inde dans les années 50, il se promenait toujours avec un rouet.
Qu'est-ce qu'un rouet?
Un rouet, c'est ce qui permet de filer le coton pour en faire du fil.
D'accord.
Et sachant que de tout temps, l'artisanat en Inde, c'est je dirais 95% de l'artisanat en Inde, c'est de l'artisanat textile. Et les 50%, c'est la poterie, l'ébénisterie, etc. Alors chez nous, le textile, c'est beaucoup moins important, mais...
Parce qu'on l'apporte de là-bas.
Voilà, c'est ça, beaucoup. Le coton, par Gandhi, il se baladait avec ce rouet, juste pour dire, on a laissé les industries lainières d'Angleterre venir déverser leur flot de textile chez nous et nous demander de le transformer sur place. Mais notre matière, c'est le coton, et notre indépendance, c'est le coton. En fait, c'est un symbole vraiment d'indépendance. Évidemment, mon choix s'est porté sur du coton khadi, donc c'est le coton qui représente cette action, en fait, ce symbole de l'indépendance, en même temps que c'est une filière, une des rares filières en Inde qui est fiabilisé en fait, qui est sécurisé par des dans chaque état, il y a des magasins spécifiques de coton cadi. Okay. Et la qualité du coton y est surveillée en fait. Et alors qu'en Inde, bon, on trouve de très très beaux tissus, en même temps qu'on retrouve aussi des choses de très très piètre qualité. Évidemment, ils ont tous les savoir-faire du textile et ils savent très bien travailler. Ça, c'est... Ouais. Il faut juste aller chercher les bonnes matières au bon endroit. Ouais. En fait.
Et ouais. Du coup, tu utilises... Donc, tu as toujours les mêmes fournisseurs depuis 2017
Oui, c'est toujours les mêmes.
Ok.
Et ouais. Ça, c'est sur la partie de ces matières qui sont produites en Inde. Donc, en 2019, je suis partie au Ladakh, toujours en Inde, pour aller travailler du cachemire, en fait.
D'accord.
Mais le cachemire, bon, ça reste quelque chose qui est peu accessible, en fait. C'est une matière très noble et qui est difficile à obtenir. Le luxe du monde entier va le chercher. Et en même temps que ça génère des problématiques environnementales aussi sur l'élevage des chèvres cachemire. Ouais. Parce que, en fait, ce produit étant très bien vendu, on va dire qu'ils ont eu trop de chèvres par rapport à l'équilibre environnemental. Avant, l'équilibre se faisait entre les chameaux, les yaks et les chèvres. Ouais, et les chèvres ayant pris le pas, elles mangent pas du tout la même chose que le chameau et le yak. Et en fait, ça crée de la désertification. Et bon, bref, ça crée des problèmes environnementaux aussi. Donc, c'est pour savoir
d'où viennent les matières.
Et après, tout ce qui est matière que je peux tracer au plus près de la France, je le fais. Et d'accord. Donc, tout ce qui est laine, je peux les tracer en France et voir, je les trace en Maine-et-Loire.
Okay.
Dès que je peux avoir des éleveurs locaux qui transforment leur matière, je prends tout en local.
D'accord.
Laine plutôt mouton ou t'as un peu...
Laine de mouton, laine de chèvre angora, donc des mohairs. Il y a les alpagas locaux aussi. Voilà, tout ce que je peux tracer au plus près, je le fais. Donc toutes les laines, en général, c'est français. Et après, le lin et le chanvre, la traçabilité peut se faire au niveau européen. Et donc, je le fais avec le label Master of Linen.
D'accord.
Ça, c'est ce qui garantit l'ensemble du process sur l'Europe, en fait. Parce que, en règle générale, le lin, il est bien produit en France. Il est bien... parce que c'est le meilleur climat en France ou en Europe du Nord, en fait. Le lin et le chanvre, c'est les meilleurs endroits du monde pour produire ces matières. Mais à 95%, c'est filé en Chine.
Ouais. Oui, donc il est produit ici, renvoyé là-bas.
Et il est filé en Chine. Et dans le meilleur des cas, il revient en fil et tissé en France.
Ouais.
Donc souvent, sur les étiquettes, on a lin de France, tissé en France. Mais on ne dit rien de ce qui se passe entre. Bon, il y a une filière de lin et chanvre qui est en train de se relocaliser en France. C'est un peu au tout début, parce qu'on se retrouve avec, je crois que c'est la troisième année maintenant, la société Safilin qui produit tout et qui file tout. Du ruissage de la plante au fil et au tissage, tout ça se fait en France.
Est-ce qu'on voit de plus en plus, justement, enfin, je suis un peu des marques comme ça, à droite à gauche, qui se mettent à faire
cette
démarche-là.
Oui, alors ces marques à droite à gauche...
J'imagine qu'elles font pas tout...
Safilin, mais là, je pense que tu penses à L'Important, par exemple, ou Gratitude.
Oui, des choses comme ça.
Voilà. C'est des structures qui ont du mal.
Ouais.
C'est vraiment, il faut les soutenir, parce que c'est pas évident. C'est pas évident de faire ce choix parce que, évidemment, la matière revient beaucoup, beaucoup plus cher. En fait.
Ouais, donc ça a un coût. Et donc, quand t'as toutes tes matières là, après, t'as ton bain,
alors,
t'as ta soupe, t'as ton tissu, tu fais quoi ?
Je vais pas rentrer dans tous les détails, du process, mais ce qui est important à se souvenir, c'est que une plante, quand elle est bien juste d'être récoltée, qu'elle soit fraîche ou sèche, on peut l'utiliser pour faire un bain de couleur. Mais dans sa matière sèche ou fraîche, elle est stable chimiquement. Le tissu, quand il est tissé, il est sec, il est stable. Il est juste mouillé, il est stable. Là, quand on a du tissu neuf, on va juste faire en sorte d'enlever tous les apprêts. Donc les apprêts, c'est tout ce qu'il peut y avoir sur le tissu pour faciliter son transport, qu'il se tâche pas dans le transport, etc. Des amidons, des trucs comme ça. Donc tout ça, tout tissu, avant de le teindre, tissu ou fil, il faut absolument les laver.
Okay.
Un tissu neuf n'est jamais propre. Et gardez ça en tête pour vos vêtements aussi, parce que j'ai encore ma mère qui m'a dit ça hier. Elle dit oui, c'est bon, on vient d'acheter des sous-vêtements, ils sont neufs, ils sont propres. Elle dit non, ils sont surtout très 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 sales, parce qu'en fait ils ont tous les apprêts et ils ont tous les passés, enfin ils sont passés dans toutes les mains pour la mise en rayon, etc. Donc vraiment un vêtement neuf, lavez-le. c'est vraiment important. Donc chimiquement, on a les choses stables. Et ce qu'on veut, c'est imprégner le tissu de couleurs. Et on veut que cette imprégnation soit solide, en fait. Eh bien, on va créer une instabilité chimique des deux côtés. Okay. On va créer... l'instabilité, elle va être créée par l'eau. Mmh. Donc, le colorant, on va le mettre en solution dans l'eau. Mmh. Et dans cet état-là, il est instable chimiquement. Il demande qu'à aller attraper ce qui est possible à côté. Qu'est-ce qu'on va lui mettre d'instable à côté ? Ben, on va lui mettre du tissu qui a été préparé. Mmh. Et il est préparé... Alors, il y a plein de recettes de préparation du textile... Le terme consacré, c'est le mordansage. Donc, créer une accroche, mordere en latin. Mmh. Créer une accroche au textile. Donc, c'est comme si on mettait des petits aimants à couleur dessus. Et les grandes familles de mordants, ça va être les métaux ou les végétaux.
Okay.
Donc, dans les végétaux, ça va être des tanins ou ça va être des sels d'alumine de végétaux. Donc, certaines plantes sont accumulatrices d'alumine. Donc, elles peuvent... faire comme de la lin, comme de l'aluminium à côté. Et on peut utiliser des acides de fruits pour sur les fibres plutôt animales, en fait, les fibres protéiniques. Donc c'est pareil, c'est des affinités qu'il faut connaître. Donc ça veut dire que quand on teint, il faut connaître la nature de son textile. Est-ce que c'est une fibre animale ou une fibre végétale? Donc la fibre animale et protéinique, elle va avoir des affinités un peu directes. Avec le colorant, en fait, c'est beaucoup plus simple de teindre une fibre végétale, une fibre animale, pardon, qu'une fibre végétale. La fibre végétale, elle n'a pas d'affinité directe avec le colorant. Il faut lui créer un médiateur. Et ce médiateur, ça va être des tanins, en général.
D'accord. Ah, intéressant.
L'idée, c'est d'aller créer cette instabilité sur le tissu quand il est en relation avec le colorant en solution. Les choses instables chimiquement, la nature étant bien faite, tout ce qui est instable va créer du stable. Ça va se remettre ensemble et créer des molécules solides. En fait, ça va créer des complexes solides. Mmh. Et cette solidité, on veut qu'elle se fasse sur le tissu.
Ok, donc ça va se mettre sur le tissu.
Ouais. Donc par exemple, un mordant, si j'ai un tissu qui est mordancé et j'ai pas rincé le mordant, je risque de perdre... de la solidité de ma teinture parce que je vais avoir une partie du mordant qui va aller dans ma cuve de couleur, en fait, dans mon teint de couleur. Il faut mordancer, mais rincer avant de mettre dans la cuve parce que tout ce qui n'est pas accroché au tissu doit disparaître avant d'aller dans la cuve. Sinon, ça va floculer, mais en bas, pas sur le tissu.
Okay.
Voilà. Bon.
Et après, ça se fixe, du coup.
Dans cette étape-là de mise en relation. Donc là, en fait, pour le fixer, l'étape, c'est on extrait la couleur, on a du tissu mordancé. L'extraction de la couleur, on a filtré le bain pour ne pas avoir de végétaux, les impuretés. Enfin, disons que si on laisse les végétaux, on risque d'avoir des taches aux endroits où il y a des feuilles ou des choses comme ça. Donc on va filtrer pour avoir une bonne couleur filtrée. On va mettre dedans le tissu mordancé. Dans cette étape, on va remonter en température le tissu mordancé et le bain de couleur. Et c'est dans ce temps-là de cuisson que la solidité de la couleur se fait. C'est là qu'on fixe la couleur. La fixation se fait à ce moment-là.
Ok, ça se fixe sans rajouter quelque chose par-dessus.
Non, parce que finalement, la fixation, elle se prépare. C'est un peu... On a fait une accroche, beaucoup plus qu'une fixation. Ce qu'on connaît des teintures en général, c'est qu'on fixe après.
C'est parce que je te dis ça, parce que moi aussi, j'étais jeune, j'ai teint ma machine à laver et des vêtements avec.
Et à la fin, tu as mis du sel.
Ou des choses comme ça. C'est pour ça.
Ben là, ça se passe avant, en fait.
Ok,
d'accord. On crée une accroche. On fait la fixation pendant le temps de cuisson du tissu dans le bain de couleur. Et après, on laisse refroidir le tissu dans le bain. Et le lendemain, on rince, on fait sécher. Et moi, généralement, je laisse maturer ma couleur le plus souvent une quinzaine de jours avant de faire ma finition. Et ma finition, c'est lui faire suivre les mêmes conditions d'entretien que je vais donner à mes clients, c'est-à-dire un lavage au savon, etc. S'il y a la moindre transformation, dégorgement, c'est moi qui le vois. Et donc, je fais du rinçage jusqu'à l'eau claire. Et après, tout ce qui est vendu sur mes stands, c'est déjà fini. En fait.
D'accord.
Ça se finit pas chez vous.
Et après, tu vends sur des marchés, en ligne, dans des boutiques?
Il y a trois parties à mon activité. C'est créer du produit fini pour le vendre sur des salons textiles, des salons métiers d'art, puisque je suis référencée métiers d'art depuis 2017. Ça peut m'arriver de faire des salons autour des journées du patrimoine ou les journées européennes des métiers d'art, justement.
Ouais. C'est quand ça, du coup,
c'est en avril.
Ok, donc tout prochainement.
Ouais. Et les journées du patrimoine, c'est en septembre.
Ouais, c'est, septembre.
Ouais. Là, c'est autour du savoir-faire, plutôt. Et puis les journées du métier d'art, c'est plutôt mettre la mise en avant, pareil, des savoir-faire autour des métiers anciens, en fait. Mmh. Et puis la transmission. Donc, dans mon métier, c'est faire des salons, des produits finis et les vendre aux endroits appropriés. Je fais de la transmission de savoir, donc de la formation.
Dans les écoles,
Non, je fais de la formation pour les particuliers et pour les professionnels. Les professionnels, je le fais via l'école de la laine dans les Deux-Sèvres. Là, c'est plutôt, ça va être des couturiers, ça va être des éleveurs, ça va être des tisserands qui veulent faire leurs couleurs, ou des stylistes, c'est un peu tous ceux qui ont un projet d'amener la couleur végétale dans leur pratique. Ouais. Et puis la troisième partie, c'est la teinture à façon, c'est-à-dire on va me confier de la matière à teindre.
D'accord.
Et là, c'est plus souvent des professionnels qui veulent faire des petites collections avec de la couleur végétale. Donc là, ça passe d'abord par l'échantillonnage, c'est-à-dire de la matière, à les donner les possibilités, les différentes couleurs, en fait, pour qu'il y ait des choix de couleurs sur les matières définies, puisque répéter une couleur, ça ne peut se faire qu'avec le même lot de plantes et la même matière.
Ouais, c'est hyper spécifique.
Donc là, il y a vraiment besoin d'échantillonner la matière et de proposer des différents coloris aux professionnels. Et puis, une fois qu'il a fait son choix, moi, j'ai une recette en face qui est liée à mon échantillonnage. Et là, je peux faire les prototypes pour voir une petite série avec le professionnel. Voilà. Donc, c'est trois parties de l'activité. Et plus la partie récolte, évidemment, puisque je souhaite être au maximum autonome, au plus autonome possible avec mes plantes, parce que le passage au jardin, pour moi, est vraiment important dans ma pratique, parce que ça a du sens pour moi, parce que j'ai accès à un jardin, parce que ça me plaît, parce que voilà. Oui. Mais on peut très bien faire la teinture en achetant les plantes, c'est pas un problème, ou en demandant à des cueilleurs de le faire. On peut même travailler avec des extraits de plantes, c'est-à-dire que les extraits de plantes, c'est l'étape suivante, c'est-à-dire après avoir fait le bain de couleur, il y a des professionnels qui savent faire ça. Ils vont réduire le colorant en extrait sec. Ça va faire comme du café soluble, en fait. On va pouvoir avoir le bain de couleur en mettant juste une poudre et de l'eau.
C'est la poudre qu'on peut peut-être retrouver aussi dans les pigments pour la peinture, des choses comme ça.
Alors, la différence entre un colorant et un pigment, c'est quoi ?
Tu vas me le dire.
Un colorant, c'est soluble dans l'eau. Ouais. Un pigment, ça ne l'est pas.
Okay.
Et un pigment, il a besoin d'un support, en fait.
Okay.
Pour être utilisé, alors, si on veut faire une peinture...
Ouais.
Le support, ça va être de la chaux, de la farine, un œuf.
Oui, pour l'aquarelle, des choses comme ça.
On a besoin d'un support au pigment.
Ouais.
Et un colorant, il est soluble dans l'eau, donc on peut mettre juste de l'eau.
Okay. Donc là, l'extraction sera différente. En fait, pour
l'eau. Et en fait, un extrait de plante, on va aller chercher à ce que ce soit de la poudre soluble dans l'eau.
Okay.
Moi, la raison pour laquelle je pratique pas l'extrait végétaux, parce que j'aime bien aller récolter mes plantes et faire... Mais je peux comprendre que si on manque de temps, par exemple, ou de place, ou qu'on n'a pas de jardin, etc., on puisse avoir besoin ou envie d'utiliser des extraits. J'ai pratiqué avec des formateurs et tout ça, avec des extraits. J'ai quand même pu constater, comparer un peu la pureté des couleurs quand c'est de l'extrait et quand c'est mes plantes ou mes fleurs. Une fois, j'ai testé vraiment ça avec, par exemple, les fleurs de cosmos sulfureux. Là, moi, je les récolte tous les 2-3 jours, je fais sécher. Quand j'en ai suffisamment, je peux faire un bain. Le cosmos sulfureux en extrait, c'est récolté 2 fois dans la saison, ou 2 ou 3 fois, je pense. C'est pas récolté à la main, à ma connaissance. Et ils prennent les feuilles et les fleurs.
Oui. Donc,
c'est vraiment comme l'équivalent d'une tisane. Ouais. On voit bien la pureté d'une tisane suivant le moment où on a récolté. C'est pareil pour les couleurs.
Oui, ça va être fait en masse, donc c'est... Tu parlais tout à l'heure de la stabilité des lots, c'est que là, c'est des lots mélangés, en fait, pour le coup.
Voilà, ça correspond à des lots mélangés, et parfois avec des parties de plantes pas vraiment sélectionnées, C'est un peu logique que ce n'est pas le même résultat. Quand on prend un café soluble, c'est rare qu'il soit aussi bon qu'un café grain qu'on vient de moudre,
C'est la qualité sur le rendu final.
Ouais.
Donc là, du coup, t'as vraiment un panel d'activités. Mmh. T'as pas de journée type, vu que tu fais plein de choses, ça va dépendre des jours. Un jour, tu vas faire de la teinture, un jour, tu vas faire de la formation, un jour, tu vas faire de l'échantillonnage. Ça va être un peu tout ça.
En fait, c'est vrai que là, c'est très diversifié. C'est parfois un peu trop diversifié, presque, mais à la fois, c'est comme ça que ça me plaît. Mais c'est plutôt l'année qui est type. Ça va être lié aux saisons, évidemment. Il y a des moments où il faut être au jardin, des moments où il faut, je peux être ailleurs. Mais grosso modo, le début d'année, bon, le début d'année, c'est la partie un peu plus calme au niveau du jardin. Donc là, je vais essayer de produire. Je peux faire un peu de formation avec des plantes sèches. Et tout ce qui est partie, évidemment, stratégie de l'année, oui, positionner, etc. Entrepreneurial, en fait. Ouais. Un peu de com et tout ça. Enfin, préparer la stratégie com et tout ça. Après, dès que la saison commence je vais avoir des périodes. En fait, je vais avoir des périodes de formation. Je vais donner des formations parce que il se trouve que mon atelier est le même lieu que là où je donne les formations.
Okay.
Donc, pour l'instant, je peux pas faire des formations et faire de la production en même temps. Donc, je me donne fin janvier, début février, je ferai une première session de formation. Ça, c'est plus tous les gens qui ont eu des bons cadeaux à Noël et qui veulent les utiliser. Mm-hmm. Ça se passe là. Après, j'ai une autre session en mai-juin. Okay. Et une autre session en septembre. Okay. Ça, c'est les formations. Après, j'ai les salons qui commencent printemps, septembre et toute la fin de l'année. Donc là, il faut que j'ai produit assez de produits finis pour pouvoir couvrir toute l'année. Donc en fait, toutes les séquences, il y a une séquence production assez importante en début d'année. Tout en cours d'année, voilà, c'est du régulier. Après, il y a les lieux, trouver les lieux d'exposition, faire les dossiers de candidature, etc.
Et puis
participer à ces salons, en fait, ouais. Parce que bon, il faut aussi y aller. Ça peut être assez fatigant, mais ouais. c'est très divers. C'est vrai que c'est très divers.
Tu dois faire des belles rencontres aussi avec des gens qui sont intéressés dans l'échange et tout.
Puis moi, je rencontre d'autres artisans parce qu'il y a tout un volet que, comme je ne suis pas couturière, et je fais du vêtement aussi, je ne fais pas que teindre des produits finis. Donc, je teins des fils et des coupons et ensuite, je travaille avec d'autres artisans pour leur passer des petites commandes. Donc, je suis aussi prescripteur des autres artisans. Et c'est dans ces salons-là que je les rencontre, en fait.
Okay.
Ceux avec qui j'ai envie de travailler parce que je vois leur travail, justement.
Ouais. Puis, tu peux changer avec eux.
Et j'échange avec eux à ce moment-là. En même temps, j'aime bien leur univers ou pas. Enfin, voilà, c'est comme ça que je... Oui, je suis toujours... Quand je suis dans les salons, je vends, mais aussi j'achète quelque part.
Ça marche
en quelque sorte.
Non, parce que tu découvres des gens.
Voilà. Okay, ouais.
Est-ce que aujourd'hui, tu aurais une plante coup de cœur qui donnerait la couleur que tu préfères? Parce qu'on a compris tout à l'heure que donc tu utilisais des fleurs, plusieurs parties, des racines, de l'écorce. Mais toi, est-ce qu'il y en a une qui serait vraiment la tienne?
Je crois que celle qui me suit, c'est le cosmos sulfureux.
Ok. Et ça fait quelle couleur?
Un orange très pur. J'aime son nom. J'aime son nom parce qu'il englobe l'univers, le cosmos. Et puis sulfureux parce que voilà, c'est le sulfure, c'est aussi la transformation là.
Ouais, c'est vrai.
Voilà. Ouais.
C'est que c'est un orange un peu, tu parlais tout à l'heure de l'Inde, c'est un orange un peu qu'on peut retrouver sur des tenues.
Ouais, oui, c'est assez proche, ouais.
Ok.
Je n'avais pas fait le lien, mais oui.
C'est l'histoire d'imaginer un peu quel type d'orange.
C'est assez proche de la couleur qu'on obtient avec l'œillet d'Inde, et l'œillet d'Inde, ça fait partie de ces colliers d'offrandes, et très régulièrement, d'ailleurs, quand j'ai été en Inde, ça n'a pas manqué, on a eu des colliers d'œillet d'Inde, et en revenant, j'avais fait une teinture avec.
Ok.
Et ça, c'est très proche du cosmos sulfureux en couleur.
Ok.
Ça fait partie des plantes tinctoriales en tout cas.
C'est ton Pantone de.
Ouais, c'est mon Pantone.
Du coup, en tout cas, t'as l'air vraiment passionnée par ton métier. Et tu es là, tu es dans ta 10e année, enfin, ça va faire 10 ans.
Oui.
Est-ce que t'arrives à en vivre de ton métier aujourd'hui?
Oui. J'en vis à. Mon équilibre économique, il est lié comme toute personne, est lié à un ensemble de facteurs. Mmh. Et donc, j'en vis par rapport à mes besoins.
Oui.
Donc, et en ça, je dis oui, j'en vis.
Ouais.
C'est OK pour moi, quoi.
Ouais.
Après, je comprends qu'une personne qui a 30 ans, qui est en train d'acheter une maison, et c'est pas tout à fait pareil. Moi, j'ai commencé finalement mon activité, j'avais 48 ans. La maison était payée, voilà.
Ouais.
On peut avoir des modèles économiques suivant l'âge qu'on a. Comment dire? Dire qu'on en vit n'est pas suffisant, en fait, je trouve.
Que t'en vis sans dire que le financier, que t'en vis de richesse.
Ah ben là.
Enfin voilà.
Là, c'est
quand
ça.
Je parle de vivre. Il y a le côté pécunier, mais il y a le côté aussi, aujourd'hui, t'es épanoui dans ton. Enfin, en tout cas.
Complètement.
T'as l'air complètement épanoui dans ce que tu vis, t'es passionné.
Oui.
Enfin voilà.
Oui, là, c'est sans. Je m'investis dans ce que je fais. J'aime bien. Si je suis pas contente, je change, en fait. Et là, je m'attendais pas à autant de richesses, en fait.
T'apprends encore
à tous les jours.
Aujourd'hui, tous les jours. Toujours encore.
Parce qu'en fait, ce qu'on apprend, c'est tous ces métiers. Je sais pas si c'est lié au métier d'art, mais en tout cas, c'est savoir-faire qu'on apprend dans le temps par l'apprentissage. Ça nécessite de l'attention et du temps. Quand on donne cette attention et ce temps, la richesse se découvre, en fait. Et si on ne donne pas ce temps, je crois qu'on n'aboutit pas à ce plaisir, en fait. Après, il faut avoir la possibilité, avoir la possibilité économique de le faire, de le prendre ce temps aussi. Et c'est pas évident, hein, bien sûr. Je dirais que, au niveau économique, quand je dis économique, oui, peut-être résultat financier de cette activité, c'est les 3 dernières années là qui sont ok, en fait. Avant, ça pouvait être un peu juste, peut-être par rapport à ce qu'on imagine.
Des standards
qu'on peut donner.
C'est un petit peu ce qu'on dit autrefois. On me disait, moi quand je me suis lancé en 2018, on me disait, ouais, il faut compter 2-3 ans avant d'être sûr que ton activité soit bien stable économiquement parlant. Maintenant, on parle de 6 ans plutôt.
On est là-dessus.
Est-ce que, donc là, on va arriver à la partie recommandation. Est-ce que tu aurais tu nous as parlé de ta plante coup de cœur. Est-ce que tu aurais un livre éventuellement qui nous. Ou une œuvre, hein, ça peut être une œuvre, une exposition, un tableau, quelque chose qui t'aurait marqué.
L'œuvre, on peut quand même parler de la tapisserie de l'Apocalypse, qui est forcément en teinture naturelle. Donc j'invite tous les Angevins et ceux qui viennent de plus loin d'aller la voir, parce que c'est quand même. Sur une œuvre qui a des centaines d'années et qui a subi bien des déboires, personne s'en est vraiment occupé à certaines époques, ça protégeait de l'eau, etc. Donc, et les couleurs, elles sont quand même toujours là, donc c'est étonnant. Et puis, le livre, je crois que la base pour les teinturiers qui commencent et encore pour moi, c'est un livre, c'est le guide des teintures naturelles qui a été, on va dire, synthétisé par une jeune femme qui est teinturière, qui s'appelle Marie Marquet, qui est un guide vraiment pratique. Elle a comme synthétisé le guide des teintures naturelles de la grande prêtresse de la teinture naturelle, qui s'appelle Dominique Cardon, elle qui est une professeure CNRS, qui a passé 40 ans de sa vie sur le sujet, et qui a écrit un énorme bouquin. Je crois qu'elle a travaillé, Marie et Dominique Cardon ont travaillé ensemble à un moment, et elle a fait un espèce de une certaine synthèse, en fait, des plantes communes, et qui est très bien fait parce qu'il part de la plante, de son environnement, du lieu où on le trouve, il redonne les recettes utilisables. Enfin, il est très bien fait, très pédagogique, et Marie Marquet est une très bonne pédagogue, donc je recommande cette personne-là.
Ce serait le livre à conseiller pour quelqu'un qui
débute
et qui a envie de se lancer.
Qui est accessible quand même, qui est pas trop. Qui est technique, mais pas non plus.
Ah oui, il est vraiment pratico-pratique. Et par la plante.
Super intéressant.
Et ben, du coup, est-ce que tu aurais juste pour terminer un petit conseil pour les gens qui veulent se lancer? Déjà d'acheter ce livre, je dirais.
Déjà commencer ce livre. Après. Il y a beaucoup de livres qui sortent sur la teinture naturelle parce que c'est un sujet un petit peu à la mode.
Comme beaucoup.
Voilà. Tous ne se valent pas.
Mm-hmm. Ok.
Donc, c'est pas moi qui vais faire le tri parce qu'en plus, je lis pas tous les derniers, etc. Ouais. Hein, donc, j'ai pas acheté non plus tous les livres sur le sujet parce qu'il en sort un à deux par an, quand même, à peu près. Donc, voilà. Peut-être prendre les conseils, croiser des conseils pour utiliser les bons livres. Et puis, faire des découvertes, on peut très bien faire. Voilà, moi, je fais des découvertes, mais il y a plein d'autres personnes qui font des découvertes sur la teinture végétale. On va dire que ça reste un métier de geste.
Ouais.
Et donc.
Le voir.
Lire, c'est bien,
il y a des recettes, mais il y a tellement de, gestes associés qui sont très difficiles à décrire, en fait. Ne serait-ce que le tomber d'un tissu dans l'eau, pour permettre un bel unisson, c'est quelque chose, on le voit en 2 minutes, on comprend, et à décrire, c'est compliqué, en fait.
Oui, non, mais de rencontrer des gens, quoi, en tout cas.
Ça reste un métier humain, hein.
humain et puis de pratique. Ça reste un métier de main.
ça peut être un beau mot de la fin. Un métier de main. Isabelle, merci d'être venue, d'avoir consacré un peu de temps, même s'il y a un beau soleil que tu aurais aimé dans le jardin,
c'est ça.
De nous avoir consacré cette petite heure.
Merci
également à vous, auditeurs et auditrices, de nous avoir écoutés. J'espère que l'épisode vous a plu, que vous aurez appris des choses. J'étais particulièrement intrigué par les cocons en forêt. On espère donc que ça vous a plu. N'hésitez pas donc à faire vos commentaires sur les réseaux, à liker, à vous abonner, puis à partager aussi l'épisode. Nous, on va se dire à très vite, donc le mois prochain, pour un nouvel épisode consacré à une thématique particulière qu'on vous dévoilera le mois prochain. Et puis d'ici là, portez-vous bien. On se dit à la prochaine fois et belle journée.
Belle journée à vous.
Belle journée.